de la connaissance.
Mireille Huchon, vous avez établi la nouvelle édition du Rabelais dans la Pléiade. Est-ce que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur la ponctuation chez Rabelais?
Beaucoup de questions, oui, pour savoir si l'on allait conserver la ponctuation de l'époque, que beaucoup disaient fantaisiste, ou si l'on allait la moderniser. Parce que ce qui se passe au XVIe siècle, c'est que lorsque l'on donne une édition, généralement on reprend une édition antérieure. Donc on peut, comme ceci, faire des sortes de filiation d'édition et étudier le devenir des signes de ponctuation d'une édition à l'autre. Donc en comparant les différentes éditions, il y en a plus d'une cinquantaine parues du vivant de Rabelais, on peut se rendre compte qu'il y a une cohérence dans l'usage de la ponctuation, et qu'elle n'était pas du tout fantaisiste comme on le disait, mais qu'assez souvent il s'agit d'un champ d'affrontement entre l'auteur et ses imprimeurs, et l'on peut retrouver une cohérence de la ponctuation.
Rabelais faisait très attention à la ponctuation, il supervisait...
Rabelais, je crois, faisait très attention à la ponctuation. Si il existe un exemplaire du quart-livre qui est annoté de la main de Rabelais à la Bibliothèque nationale, et il y a des corrections qui sont des corrections de ponctuation, entre autres l'addition de parenthèses. Donc il semble que l'auteur fasse une utilisation toute particulière de certains signes. Et d'autre part, on peut voir dans les éditions qu'il donne, par exemple, lorsqu'il reprend une édition, eh bien, il conserve généralement la ponctuation dans les éditions qui sont corrigées par ses soins. Ce qui n'est pas le cas lorsque les éditions sont soumises au correcteur.
Vous avez donc étudié presque 40 000 signes de ponctuation.
40 000 signes de ponctuation, oui. D'une édition à l'autre, ce qui était un travail tout à fait ingrat, il faut bien le reconnaître, mais qui peut fournir des indications quand même tout à fait intéressantes sur un moment clé dans l'évolution de la langue et montrer combien un simple petit opuscule, qui est l'opuscule de Dolet sur la manière de ponctuer, en 1540, a eu une influence exceptionnelle dans les ateliers.
Alors parlez-nous du contexte justement, parce que c'est vrai que le XVIe siècle est un siècle quand même très important pour la ponctuation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de définition de la ponctuation.
Oui, siècle très intéressant d'ailleurs pour toutes les codifications. Les années 1530-1550 sont totalement capitales dans l'histoire de la langue, dans l'histoire de la graphie et dans l'histoire de la ponctuation. Et Dolet a fourni un certain nombre de caractéristiques, entre autres montrant l'utilisation de ce qu'il appelle le point à queue, la virgule, qui était le signe le plus faible, par rapport donc aux deux points, ou par rapport au point, le deux points étant la ponctuation moyenne et le point étant la ponctuation forte. On pourrait parler toutefois, dans les éditions de Rabelais, d'une bataille de virgule. Il y a un épisode qui est très intéressant et qui montre combien les enjeux de la ponctuation au XVIe siècle. Dolet avait donné en 1542 une édition de Rabelais totalement faite selon ses principes, c'est-à-dire multipliant les virgules, et qui n'était pas édition qui était faite sans le concours, semblait-il, et désavoué ensuite par Rabelais. Mais l'éditeur de Rabelais, qui était donc François Just, son éditeur attitré, a été très mécontent de cette édition concurrente. Il a fait un carton, d'ailleurs, c'est-à-dire un petit pamphlet, mis en début de certains exemplaires, s'en prenant à Dolet directement, vilipendant son traité de la ponctuation, disant que c'était la montagne qui avait accouché d'une souris. Et ensuite, le successeur de François Just, semblait-il Pierre de Tours, redonne une édition de Rabelais. Et que se passe-t-il? Eh bien, chaque fois qu'il y avait des virgules, il les élimine et il met des deux points. Donc, on a ici, vraisemblablement, contre justement Dolet, contre cette utilisation du point à queue, une utilisation donc des deux points, une bataille vraiment de virgules à cette époque. Rabelais, surtout dans la mesure où il avait fait un véritable système graphique qui était très compliqué, il a été sans cesse en but à ses imprimeurs, c'est vrai, aux correcteurs également, aux correcteurs surtout.
Et il était grammairien en plus, Rabelais.
Oui, il avait inventé son propre système orthographique, enfin qu'il avait appelé la censure antique, qui était d'une extrême complexité. Je crois que les protes, évidemment, ne pouvaient rien y comprendre. Et lorsqu'il ne surveillait pas ses éditions, eh bien, on voit disparaître l'orthographe qui était son orthographe particulière.
Est-ce que Rabelais a changé sa manière d'écrire et de ponctuer avant Daulet et après Daulet?
Alors, il semble qu'il y ait un peu plus de virgules après Daulet, justement, et d'autre part, il fait un usage très cohérent de la parenthèse. Rabelais n'utilise pas les guillemets, il n'utilise pas non plus les tirets, enfin, lorsqu'il y a changement de réplique. On ne trouve pas ce que l'on trouve chez d'autres auteurs, le point d'exclamation. Et d'autre part, pour le point-virgule, il y a en tout et pour tout, dans toute l'œuvre de Rabelais, sur les 40 000 signes de ponctuation que j'avais pu étudier, je n'ai trouvé qu'un seul point-virgule. Le point-virgule qui était d'emploi un peu hésitant dans la mesure où en latin et en italien il n'avait pas le même usage, avait disparu plus ou moins des éditions françaises au début du XVIe siècle et ne fait une réapparition que dans les années 1540, 1550 même. Et donc on a un seul emploi du point-virgule chez Rabelais.
Mireille Huchon, vous avez la Pléiade là sous les yeux, vous pourriez nous lire peut-être un ou deux extraits de Rabelais, qu'on entende la langue, qu'on entende peut-être le rythme. Est-ce que c'est important à l'époque?
Le rythme est très important.
En fonction du
Daulet,
rythme.
D'ailleurs, dit que l'unité de base est la période, et que la période, c'est ce que l'on peut dire d'une seule haleine. Donc le caractère rythmique et oral est particulièrement marqué. Et la ponctuation aussi, enfin il faut noter que dans le texte de Rabelais, lorsque l'on conserve la ponctuation de l'époque, les phrases sont beaucoup plus courtes qu'elles ne le sont lorsque l'on met, comme on a fait au début du siècle et pendant tout le XXe siècle généralement, lorsque l'on a modernisé la ponctuation, où les phrases sont beaucoup plus longues. Ce qui fait que je crois que utiliser la ponctuation de l'époque est peut-être une facilité pour la lecture.
D'où l'intérêt aussi de cette édition, donc, dans laquelle vous avez rigoureusement
conservé la ponctuation, à l'exception de l'introduction des guillemets, car je crois qu'il était impossible de lire le texte sans guillemets, et d'autre part, l'utilisation aussi du tiret pour les changements de réplique. Autrement, le texte était vraiment tout à fait difficile à lire, très compact en plus, parce que normalement, on n'a pas dans le texte de Rabelais d'alinéa. Car vous-même dites que l'habit ne fait point le moine, et telle est vêtue d'habit monacal, qui au-dedans n'est rien moins que moine, et telle est vêtue de cap espagnol, qui en son courage nullement affière à Espagne. La première phrase s'arrête ici, ensuite. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre, deux points, et soigneusement peser ce qui est déduit. Et là, ensuite, on a un point, et que donc les phrases sont courtes. L'or que nous étrait, que la drogue dedans contenue, et bien d'autres valeurs que ne promettait la boîte. Nous avons un point ici. C'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont en folâtre, comme le titre au-dessus prétendait. Donc, une pause, une faible pause avec la virgule, une pause moyenne lorsque l'on a les deux points.
That hard times are gonna end, so we gotta do what we can to have some fun again.
Sabine Boucheron, pourquoi s'intéresser en particulier à la parenthèse, au point d'en faire le sujet de votre thèse?
Oui, alors en fait, bon, c'est venu au départ d'une recherche en littérature sur les travailleurs de la mer, recherche dans laquelle j'ai étudié les passages où Victor Hugo s'éloignait, je dirais, de son récit pour s'en aller dans des digressions qui n'avaient plus aucun rapport, ou en tout cas très vague, avec l'intrigue de fond, je dirais. Et à partir de là, comme j'ai voulu faire un travail plus spécifiquement de linguistique, je me suis dit, bon, quelles sont les marques dans la langue et en particulier dans le système de la ponctuation qui nous permettent de saisir ces moments comme ça où on s'en va un petit peu du fond du texte ou de la phrase d'insertion. Et donc, je suis tombée, je dirais, amoureuse des parenthèses. Et c'est une passion qui dure encore puisque ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur les parenthèses.
Ce qui veut dire donc que c'est un sujet riche. Quel est l'enjeu de la parenthèse? Qu'est-ce qui se passe dans la parenthèse?
Oui, alors bon, dans la parenthèse, il se passe un nombre de choses assez considérables. Bon, déjà, pour ce qui est de la fonction, pour la décrire un petit peu, hein, la parenthèse encadre, la parenthèse enserre un élément de la phrase dans donc cet espace parenthétique. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une parenthèse? Eh bien, il peut y avoir une lettre. Une seule lettre, hein. Par exemple, vous avez dessin, si vous prenez le mot dessin, vous pouvez l'avoir écrit D-E-2-S-I-N, un dessin qu'on fait, qu'on dessine, et à l'intérieur, on met avec une parenthèse, on insère un E. Donc le mot dessin contient, grâce à la parenthèse, l'autre mot dessin, c'est-à-dire le projet, quoi.
C'est un espace de jeu, c'est un espace de liberté, c'est un espace subjectif, la parenthèse en particulier.
Alors oui, en particulier, oui bien sûr, bon, quand vous regardez les traités de ponctuation, il est vrai qu'à un moment ou à un autre, on vous dit, bon, c'est là que l'auteur, effectivement, plus précisément, donne des choses à voir ou à lire de lui, et c'est vrai que moi je suis tentée un petit peu de dire que si dans une phrase il y a un espace analytique, pour ne pas dire psychanalytique, c'est la parenthèse, hein. C'est-à-dire vous pouvez la comparer. Une espèce de divan, hein, une espèce de cocon. D'ailleurs, Drillon, dans son ouvrage, compare la parenthèse à un cocon dans lequel l'écrivain est lové. Il est lové à l'intérieur des deux courbes, hein, qui sont d'ailleurs liées à la féminité, à la maternité, au repos. La parenthèse est vécue comme une halte, je dirais, hein, comme une halte, comme un moment de calme, de quiétude. Mais elle a aussi un autre imaginaire, c'est-à-dire qu'elle est aussi vécue comme quelque chose de lourd, d'indigeste. Et notamment, il y a une lettre de Roger Martin Dugard à André Gide, où il termine, donc il écrit la parenthèse fermante en disant qu'il s'agit là d'une nauséabonde parenthèse. Hein. Donc la parenthèse, elle est vécue à la fois comme quelque chose de reposant, mais aussi comme quelque chose d'indigeste, de pesant, de lourd, quoi.
Vous êtes intéressé en particulier à Claude Simon et à une phrase de Claude Simon, une phrase absolument interminable, que j'aimerais bien que vous puissiez nous lire, si tant est qu'il est possible de lire cette phrase de Claude Simon qui a 4 parenthèses.
Oui, alors bon, effectivement c'est un petit peu dur de parler, je dirais, de réfléchir à l'oral sur le phénomène de la ponctuation qui est quand même fortement lié à l'écrit et plus particulièrement quand on s'attache à la description des textes de prose contemporaine. Hein. Et là, il est évident que, alors j'ai travaillé sur l'incipit du Palace, hein, c'est-à-dire la première phrase du Palace, qui est en réalité une phrase qui permet de voir comment l'ensemble du roman va se dérouler. Donc on a 2 niveaux comme ça. On a presque un texte qui s'écrit en termes de colonnes, en termes tabulaires. Donc il y a quelque chose là dans cette architecture là du texte qui ressemblerait à un manuscrit. C'est comme s'il restait quelque chose du manuscrit, quoi. Hein. Et donc, bon, je veux bien essayer de la lire. Et à un moment, dans un brusque froissement d'air aussitôt figé, et là donc on ouvre une première parenthèse, de sorte qu'il fût là, les ailes déjà repliées, parfaitement immobile, sans qu'il l'ait vu arriver, comme s'il avait non pas volé jusqu'au balcon, mais était subitement apparu, matérialisé par la baguette d'un prestidigitateur. Là, on referme une première parenthèse. Suite de la phrase d'accueil, l'un d'eux vint s'abattre sur l'appui de pierre énorme. On ouvre une seconde parenthèse, sans doute parce que l'on les voit toujours de loin, on ferme la deuxième parenthèse. Phrase d'accueil étrangement lourd. On ouvre une troisième parenthèse, comme un pigeon en porcelaine, pensa-t-il, se demandant comment, dans une ville où la préoccupation de tous était de trouver à manger, il s'arrangeait pour être aussi gras et aussi comment il se faisait qu'on ne les attrapât pas pour les faire cuire. On ferme la troisième parenthèse, virgule, phrase à nouveau d'accueil, avec son soyeux plumage tacheté, gris foncé, à reflets émeraudes sur la nuque et cuivré sur le poitrail, ses pattes corail, son bec en forme de virgule, quelques instants il resta là, l'œil stupide et rond, tournant la tête sans raison, à droite et à gauche, passant d'une position à l'autre par une série de minuscules et brefs mouvements. Puis, là on ouvre la dernière parenthèse, sans doute parce que l'un de ceux qui étaient dans la chambre fit un geste ou un bruit, on ferme la dernière parenthèse, aussi brusquement qu'il s'était posé, il s'envola. Donc là, à chaque fois, vous voyez qu'il y a, je dirais presque dessiné, mais visualisé dans le texte de Claude Simon, on le voit bien, un premier plan qui est celui purement descriptif, hein, presque dans le sens nouveau roman, de l'oiseau qui est là, hein, avec les ailes repliées, parfaitement immobiles, etc. Donc là, on est dans la description objective de l'animal, dans le non-humain, dans le récit, dans le descriptif. Et la parenthèse, au contraire, nous donne à voir une émergence des sujets multiples, hein, les personnages qui donc sont en train de regarder le pigeon et qui à un moment effectivement bougent, de sorte que le pigeon s'envole. Donc en fait, si vous voulez, ce que notamment donc dans Claude Simon la parenthèse permet, c'est, je dirais, de créer des strates comme ça, de créer un feuilleté qui permet aussi d'échapper à la linéarité du langage, hein. Ce qu'il y a quand on écrit, c'est qu'on écrit sur une seule ligne. On ne peut pas, au contraire des musiciens ou alors mieux des peintres, écrire sur tout un espace ou sur simplement plusieurs lignes, c'est-à-dire une portée, hein. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que la parenthèse telle notamment qu'elle est utilisée chez Claude Simon, permet d'écrire, je dirais, sur plusieurs lignes. Et ce faisant, donc, il peut dire plusieurs choses à la fois. C'est ça qu'il y a dans la parenthèse, c'est qu'elle crée une forme verticale du langage, un lieu autre. La parenthèse est un petit peu, je dirais, à la phrase, ce que la marge est à la page. C'est-à-dire qu'elle permet de dire d'autres choses en même temps, simultanément au récit qu'on est déjà en train de faire. Alors il est évident que tout ça est fantasmé et fantasmatique. On n'écrira jamais sur plusieurs lignes à la fois, sauf si on est dans un manuscrit, hein. Mais c'est cette illusion-là qui est à l'œuvre dans le mécanisme de la parenthèse.